gloire au Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père, nous sommes devant toi. Te disons merci pour l'occasion que tu nous donnes d'être une fois de plus dans ce temple, à tes pieds, pour recevoir ta parole et pour être transformé par ta parole. Merci parce que lorsque nous sommes dans ta présence, lorsque nous sommes à tes pieds, Seigneur, tu fais au-delà de ce que nous pouvons voir. Tu fais au-delà de ce que nous pouvons ressentir avec nos sens. Et nous sommes certains que tu es encore à l'œuvre aujourd'hui, en ces instants. Et nous prions, Seigneur, que tu te sentes libre d'agir au milieu de nous et en nous. Dans le nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Bonjour à tout le monde. Que le Seigneur vous bénisse pour votre présence encore en ce jour, en ce lieu, à ce rendez-vous que nous avons avec le Seigneur chaque dimanche. Et j'aimerais continuer avec l'exposé que j'ai commencé la semaine passée, que nous avons intitulé « Save the Date ». Il s'agit d'une série, d'enseignements qui est destinée à nous aider à entrer dans le mariage à la manière de Dieu. Alléluia. Alléluia. Oui. L'enseignement est tiré du livre de Ruth. Combien d'entre vous ont eu le temps de parcourir, de lire le livre de Ruth? Il n'y a que 4 chapitres. Combien d'entre vous l'ont lu depuis le début de la série, le dimanche passé? Personne? Ah, que le Seigneur bénisse Annette. Alors, j'aimerais vous encourager à lire ça. N'est-ce pas? Je suis sûr que le nombre de mots que vous avez lus au courant de la semaine dépasse déjà le nombre de mots qu'il y a dans les 4 chapitres de Ruth. Alléluia. Oui, si vous comptez le nombre de textos, des SMS, des choses que vous avez lues pendant la semaine, ça dépasse largement Ruth 1, 2, 3 et 4. Donc, vous pouvez le faire. Alléluia. Donc, le sous-thème d'aujourd'hui, c'est trouver l'amour. Trouver l'amour, l'amour que nous cherchons. C'est un titre provisoire. Alors, à la fin de mon exposé, je vais donner l'occasion à peut-être 2 ou 3 personnes de poser des questions. Si vous les avez, n'hésitez pas, posez-les. Et si nous n'avons pas assez de temps, mettez les questions par écrit. Dieu permettra que nous puissions y répondre le moment venu. Alléluia. Le dimanche passé, nous avons essentiellement touché 3 points. Il y a 3 choses que j'ai voulu partager avec vous le dimanche passé. La première chose, la première information que je voulais donner, c'est que dans notre parcours vers le mariage, nous avons besoin d'être connectés à des personnes spirituelles, comme Ruth l'a été avec Naomi. La deuxième chose que j'ai voulu dire, c'est que la provision de Dieu pour nous, la provision du mariage et même par extension la provision de toute autre chose que nous attendons de Dieu a une adresse. Et cette adresse, c'est la montagne. Et nous avons dit que la montagne, c'est la position que vous occupez une fois que vous avez obéi au Seigneur. À l'exemple d'Abraham, lorsqu'il a offert Isaac. La troisième chose que nous avons voulu dire, c'est que la foi authentique, la foi qui change votre identité, la foi qui vous pousse à agir, cette foi vous amènera à occuper la position que vous devez occuper pour recevoir ce que Dieu a en réserve pour vous. Parce que sans la foi, la Bible dit, il est impossible de lui être agréable. Et Ruth a quitté son pays, Moab, jusque Bethléem, en suivant une femme veuve, démunie, ruinée économiquement. Elle a quitté son pays, elle a suivi cette femme jusqu'à Bethléem, c'est par la foi. Il n'y avait rien d'attirant chez Naomi. Et ces 3 choses sont très importantes pour nous. Je vais ajouter 3 choses aujourd'hui. Je vais ajouter 3 choses en plus de la foi, Mais d'abord, la foi est importante. Pourquoi? Parce que pour un enfant de Dieu, je dis bien, pour un enfant de Dieu, la foi est importante parce que votre époux ou votre épouse, c'est Dieu qui va vous le donner ou vous la donner. Et Dieu l'a dit. Proverbe chapitre 19, verset 14. Dieu dit ceci dans sa parole. Un homme peut hériter maison et richesse de ses pères. Mais seul l'Éternel peut faire quoi? Lui donner une femme intelligente. Donc, une femme intelligente, un partenaire pour la vie, c'est un don de Dieu. Alléluia. Dans Proverbe 18, le verset 22, le sage dit ceci, il dit même que une femme, on l'obtient de l'Éternel. C'est une grâce. Il emploie le mot grâce. C'est une grâce. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Et c'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. Alléluia. Donc c'est important. C'est important la foi. Parce que sans la foi, nous ne pouvons pas recevoir quelque chose ou ce que Dieu a promis pour nous. Oui. Et si le mariage, c'est quelque chose que nous devons recevoir de Dieu, si cet amour, c'est quelque chose que nous devons recevoir de Dieu, alors le thème devrait être reformulé. Parce qu'il ne s'agit pas de l'amour que nous devons trouver, mais il s'agit de l'amour que nous devons recevoir. Alléluia. Alléluia. L'homme ou la femme que vous voulez épouser, ce n'est pas une personne que vous devez vous débrouiller pour trouver. Mais c'est une personne que vous devez recevoir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez la différence? Vous devez le ou la recevoir. Et pour le recevoir, vous avez besoin de la foi. Alléluia. Tout ce que nous recevons de Dieu, nous le recevons par la foi. La grâce d'être sauvé, nous l'avons reçue par la foi. Alléluia. Abraham a reçu la promesse par la foi. L'homme que vous allez épouser, vous allez le recevoir par, alléluia, par la foi. Alléluia. Oui. Mais est-ce que la foi suffit? Lisons Ruth chapitre 2, le verset 11. Est-ce que la foi suffit? Ruth chapitre 2, verset 11 dit ceci. Boaz lui répondit, on m'a raconté, je lis dans la version Semeur, on m'a bien raconté tout ce que tu as fait. Boaz est en train de s'adresser à Ruth. Lorsque Boaz rencontre Ruth dans son champ, Ruth est allée glaner, Ruth est allée récolter ce qui reste après la récolte. Vous voyez, quand on récolte le blé, il y a toujours des restes. C'est ça que Ruth est allée chercher dans le champ de Boaz. Elle est allée chercher les restes. Pourquoi? Parce qu'elle était pauvre. Il y avait une loi en Israël. Dieu avait instruit le peuple d'Israël que lorsque vous récoltez, vous ne devez pas tout récolter. Vous devez laisser une partie pour l'étranger, pour tous les vulnérables. OK? Et c'est ce que Ruth faisait dans le champ de Boaz. Elle était démunie. Son ex-belle-mère qu'elle accompagnait était démunie. Alors elle va, elle se retrouve par hasard. La Bible dit que c'est par hasard qu'elle s'est retrouvée dans le champ de Boaz pour glaner les restes. Et lorsque Boaz le rencontre, et il dit ceci à Ruth, « On m'a bien raconté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère après la mort de ton mari. Je sais que tu as quitté ton père et ta mère et ton pays natal pour venir vivre chez un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. » Est-ce que ça, ce n'est pas la foi? Alléluia. Tu as quitté ton père, ta mère, ton pays natal pour venir vivre auprès d'un peuple que tu ne connaissais pas auparavant. Alors il dit ceci, verset 12. Que l'Éternel fasse quoi? Te récompense. Alléluia. Que l'Éternel te récompense pour ce que tu as fait et que le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, rappelez-vous, Ruth n'est pas venue s'abriter en fuyant une bonne situation, en fuyant une mauvaise situation. Non. Le Dieu d'Israël, sous la protection duquel tu es venu t'abriter, t'accorde une pleine récompense. Alléluia. À cause de la foi que tu as manifestée, que ce Dieu-là que tu as suivi t'accorde une pleine récompense. Ça, c'est la foi. Mais est-ce que ça suffit? 2 Pierre chapitre 1, lisons à partir du verset 3. 2 Pierre chapitre 1, le verset 3 dit ceci. Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie, y compris le mariage. Alléluia. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa vertu, lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses. Verset 5. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour faire quoi? Pour joindre à votre foi, quoi? La vertu. Alléluia. Donc la foi ne suffit pas. Alléluia. La foi a déplacé Ruth de Moab vers Bethléem. Mais il y a quelque chose de plus qui a amené Ruth à recevoir cette récompense. Cette récompense que Boaz avait prié l'Éternel pour elle. Et comme la foi ne suffit pas, en plus de la foi, ce qu'il faut savoir, c'est que nous devons ajouter la vertu. La vertu. Très important. Mais avant cela, j'aimerais ajouter une chose aux trois éléments dont nous avons parlé le dimanche passé. En plus de la connexion, en plus, deuxième élément, c'est quoi? Oui? J'ai parlé de la connexion le dimanche passé. En plus, j'ai parlé de... Je viens de le rappeler au début. Oui? La provision de Dieu, l'adresse. L'adresse de la provision de Dieu, c'est quelque chose que nous devons savoir. Cette adresse est la montagne. Et la troisième chose, j'ai parlé de la foi. Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. La quatrième chose que j'aimerais ajouter, c'est que un enfant de Dieu doit savoir que Dieu s'est déjà engagé pour lui chercher un partenaire. Voilà. Dieu s'est déjà engagé. Comment je le sais? L'histoire de Ruth et de Boaz nous l'enseigne. Mais Proverbe 19, verset 4, que nous avons lu, nous le montre aussi. La Bible dit que une femme intelligente, il n'y a que l'Éternel qui peut la donner. Alléluia. Donc, si Dieu donne le mariage, si Dieu donne une femme, c'est que Dieu lui-même va vous trouver la femme. Alléluia. Bon. Regardez l'histoire de Ruth et de Boaz. Vous allez remarquer que Ruth et Boaz, aucun des deux ne s'est jamais investi pour chercher l'autre. Oui ou non? Personne, Boaz, ne s'était jamais investi pour chercher une femme à épouser. Non. Ruth non plus. Mais les deux se sont rencontrés au bon endroit, au bon moment. Qui les a fait rencontrer? Qui? Ce n'est que le maître de temps et de circonstances. Alléluia. Le processus qui conduit un enfant de Dieu dans le mariage que Dieu a préparé pour lui, c'est un processus que Dieu conduit. Dieu fait concourir les temps et les circonstances pour que vous rencontriez la personne qu'il a déjà trouvée pour vous. Pourquoi? Parce que Dieu s'est déjà engagé à vous faire du bien. Alléluia.
Le problème, c'est si vous le croyez ou pas. C'est ça le problème. C'est ça. C'est ça seulement le problème. Le problème n'est pas du côté de Dieu. Le problème, c'est de est-ce que vous croyez que Dieu a déjà trouvé quelqu'un pour vous avant même que vous ne naissiez, avant même que vous ne ressentiez le besoin de vous marier, avant même qu'on vous nomme, Dieu savait que vous auriez besoin de quelqu'un. Alléluia. Mais Dieu ne t'empêchera pas de chercher une femme toi-même. Dieu ne va pas t'empêcher de te débrouiller. Si tu veux te débrouiller, vas-y. Dieu ne va pas t'empêcher. Mais tu dois savoir ceci, c'est que tu ne peux pas faire mieux que Dieu. Débrouille-toi si tu veux. Mais ce que Dieu a promis de te donner, tu ne peux pas le trouver mieux que Dieu. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Voilà. Si tu es un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, on le reconnaît par la confiance qu'il a envers son Père. Alléluia. Envers son Père céleste. Et un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu, on le reconnaît par sa soumission envers son Père céleste. Et si tu es un enfant de Dieu, si tu as confiance en ce Dieu, à ton Père céleste, si tu lui es soumis, cela va se manifester comment? Tu vas laisser Dieu aller au-devant de toi. Tu vas laisser Dieu prendre l'initiative. Tu vas laisser Dieu conduire le processus qui t'amènera vers la personne que tu dois épouser. Alléluia. Dieu a agi comme ça avec son peuple. Lorsque vous regardez l'histoire de la création, c'est Dieu qui a trouvé Ève. Dieu a trouvé Ève. D'ailleurs, Adam dormait. Alléluia. La Bible dit que Dieu a fait Ève. Et après avoir fini le travail, qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené Ève vers Adam. Et tout ce que Adam devait faire, c'est ouvrir les yeux et découvrir ce que Dieu a déjà préparé. Qui ne veut pas ça? Levez la main. Alléluia. Alléluia. Oui, Dieu s'est déjà engagé à trouver une personne pour vous. Cette information devait vous enlever déjà le stress. Oui. Ruth n'était pas stressée. Ah, vas-y. J'ai perdu mon mari, j'ai tout perdu. Comment je vais faire? Non, non. Ce n'est pas l'histoire d'une femme stressée, mais c'est l'histoire d'une femme confiante dans le Seigneur. Alléluia. Elle ne promenait pas des regards inquiets. Qui va m'aimer? Est-ce que... Non, 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 non. Elle était préoccupée à s'occuper de son ex-belle-mère. Pas sa belle-mère, ex-belle-mère, qui n'a plus rien à lui offrir. Alléluia. D'ailleurs, Boaz lui dira, vraiment, vraiment que Dieu te bénisse, parce que tu n'es pas allé chercher les jeunes hommes, tout ça, et ainsi de suite. Voilà. Ce n'est pas l'histoire d'une femme en insécurité. Non. C'est l'histoire d'une femme dont la foi se manifeste par le repos, la tranquillité, l'assurance. Alléluia. Je prie que Dieu donne l'assurance à quelqu'un. Je prie que Dieu te donne le repos. Je prie que Dieu t'enlève le stress. Oui, qui s'est déjà manifesté par les boutons. Que Dieu t'enlève le stress. Que tu te reposes. Que tu te reposes dans l'engagement que Dieu a déjà pris pour toi. Alléluia. Que tu prennes du poids au nom de Jésus. Parce que tu es au repos. Que tu cesses de maigrir. Alléluia. Que tu maigrisses aussi. Parce qu'il y a des gens dont le souci se manifeste par la prise de poids. Que tu maigrisses au nom de Jésus. À cause du repos que le Seigneur te donne. Alléluia.
Ça, c'est la quatrième chose. Dieu s'est déjà engagé pour toi. Alléluia. Dieu est un père responsable. Alléluia. Il y a des choses que je prépare pour mes enfants. Ils ne les savent pas. Mais ils ressentiront les besoins de ces choses dans 5 ans. Mais je suis en train de les préparer maintenant. Or, je ne suis qu'un homme. Alléluia. Que pensez-vous de Dieu qui non seulement s'est dit votre Père, mais il a donné son Fils unique pour vous? Alléluia. C'est bizarre qu'il y ait des chrétiens qui croient que Dieu a donné Jésus, mais ils ne croient pas que Dieu peut leur donner un mari et une femme. Alléluia. Cinquième chose. Puisque Dieu s'est engagé, ça c'est le rôle de Dieu. Dieu s'est engagé dans cette affaire. Alors, quelle est ta part? Quelle est ta part? Ton rôle à toi, c'est de te préparer à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi. Ton rôle, c'est de développer les vertus en toi-même. Développer les vertus. Voilà. Pas les développer chez la personne que tu vas épouser. Non. Les développer en toi. Parce que ce sont ces vertus-là qui te permettront non seulement de recevoir, pas de recevoir, parce que la foi te permettra de recevoir, mais ce sont ces vertus qui vont te permettre de garder ce que Dieu a en réserve pour toi. Alléluia. De les garder et de te réjouir de ce que Dieu a en réserve pour toi. Dis à quelqu'un les vertus. Les vertus. Pas en toi, mais en moi. Alléluia. Le problème, l'erreur pour beaucoup de jeunes gens, c'est de passer beaucoup de temps à chercher les critères chez l'autre. C'est l'erreur. Passer beaucoup de temps à chercher les critères. Quand je préparais cet enseignement, quelqu'un m'a dit, mais il faut nous dire quels sont les bons critères. Je n'ai pas de critères à vous donner. Le message d'aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas besoin de chercher les critères chez l'autre. Ce que vous devez faire, c'est développer ces critères en vous, en vous-même. Alléluia. Ah, vous voulez une femme qui travaille, travaille toi-même. Oui, oui. Tu veux une jeune fille propre, toi-même, lave-toi. Alléluia. Oui. C'est ça. Alléluia. Oui, développe ça, ces critères. Et vous allez voir que Ruth était une femme vertueuse. Très vertueuse. Rechercher et développer les vertus. Qu'est-ce que ça signifie, développer les vertus? Ça signifie éviter les comportements manipulateurs. C'est ça que ça signifie. Éviter les comportements manipulateurs. Qu'est-ce que j'entends par comportement manipulateur? C'est lorsque vous maquillez votre personnalité, votre caractère. Vous voulez apparaître devant les gens d'une certaine manière. Mais chez vous, dans votre chambre, ceux qui dorment avec vous dans votre chambre ont une autre personnalité, une autre identité qu'ils connaissent de vous. Mais ici, on vous connaît comme une autre personne. C'est ça, vous manipulez. Vous manipulez, vous vous maquillez. Vous maquillez votre spiritualité. Vous voyez? Priez à haute voix, vous parlez en langue au micro. Mais dans votre chambre, vous ne parlez pas en langue. Vous maquillez votre caractère, votre spiritualité. C'est ça le problème. Développer les vertus, c'est arrêter et éviter des comportements manipulateurs. Pourquoi? Pourquoi il faut les éviter? Parce que celui qui manipule n'a pas d'assurance. Vous voyez? Celui qui est obligé d'apparaître d'une certaine manière manque d'assurance. C'est ça le problème. Quand quelqu'un se maquille trop, il n'a pas confiance à sa beauté naturelle. Alléluia! Quand
quand vous avez confiance en vous-même, vous n'allez pas chercher ce que Dieu vous a donné, à cacher ce que Dieu vous a donné. Donc, quand vous maquillez votre personnalité, c'est parce que vous savez qu'il y a un problème avec votre caractère. Maintenant, au lieu de le changer, vous refusez de le changer. Mais vous vous contentez d'apparaître sous un certain jour qui ne correspond pas à votre identité réelle. Arrêtez et développez les vertus. Développer les vertus, c'est accepter les reproches avec humilité. C'est ça, développer les vertus. Accepter les reproches. L'un des problèmes avec la jeunesse, c'est que la jeunesse n'aime pas les critiques. Oui. Et pourtant, nous disons que nous avons l'Esprit de Dieu. Vous savez, quand Jésus promettait l'Esprit de Dieu à ses disciples, Jean 16, verset 8, là, Jésus a dit ceci. Jésus a parlé de la mission du Saint-Esprit. Il a dit que le Saint-Esprit viendra pour nous convaincre de quoi? Que nous sommes beaux. Non. Le Saint-Esprit ne viendra pas vous convaincre que vous êtes bon ou beau. Il viendra vous convaincre de péché. Alléluia. En d'autres termes, le Saint-Esprit, ce qu'il fait en nous, c'est de nous reprocher des mauvaises choses, des tares, des vices, des choses qui doivent changer. Parce qu'il est saint et il sait que notre nature, c'est une nature pécheresse. Il vient corriger ce qui est mauvais en nous. Alléluia. Et ça fait mal quand on vous reproche. Qui se sent bien quand on lui fait un reproche? Ça fait mal. Donc, si vous avez le Saint-Esprit, vous êtes normalement une personne habituée à recevoir des reproches. Alléluia. Vous êtes habitué. Et lorsque vous recevez des reproches, votre caractère change. Il y a des gens qui sont devenus difficiles à reprocher. Quand vous lui faites une critique, une remarque, il commence à pleurer. Vous avez déjà vu ça? Ah, vraiment, il m'a fait très mal. Il prend elle prend la position de la victime. Mais ce que tu as fait est mal. C'est mal. C'est mal. Il faut changer. Il ne faut pas pleurer. Il faut changer. Alléluia. Oui. Développer les vertus, c'est pratiquer la soumission. Pratiquer la soumission. Beaucoup de jeunes sœurs veulent se marier, mais ne veulent pas être soumises à leurs parents. Mais l'homme que vous épousez, même si aujourd'hui c'est votre ami, une fois que vous allez entrer dans le mariage, il va devenir votre chef. Avant le mariage, c'est votre ami. Après le mariage, en plus de l'amitié, il y a quelque chose d'autre qui va s'ajouter, l'autorité. Voilà. Il aura de l'autorité sur vous. Voilà. C'est ça qui va se passer. Posez la question à toutes les femmes mariées. Elles vont vous dire que c'est comme ça. Donc, il ne faut pas penser, non, moi, je vais épouser un ami. Et vous pensez qu'après le mariage, c'est seulement l'amitié là qui va commencer. Oh, qui va continuer. C'est vrai. Mais il y a aussi l'autorité qui va s'ajouter. Voilà. C'est ça qui va se passer. Donc, apprenez déjà à être soumise. Mais c'est aussi vrai pour l'homme. Alléluia. Un homme qui n'est soumis à aucune autorité vous fera souffrir. Parce que la Bible dit que Christ est le chef de l'Église. Alléluia. Christ est le chef de l'homme. Et l'homme est le chef de la femme. C'est ce que la Bible dit. N'est-ce pas? Donc, si un homme doit aussi apprendre à être soumis. Soumis à qui? Soumis à l'autorité qui est au-dessus de lui, ses parents. Son autorité à l'église, sur le lieu de travail, ainsi de suite. Développer les vertus signifie exercer l'autorité avec respect et avec humilité. Ça signifie aussi être transparent, authentique, je l'ai déjà dit. Ça signifie pratiquer la chasteté. La chasteté, ça veut dire se maîtriser, voyez, se maîtriser devant les désirs qu'on a, les désirs de la chair, se maîtriser devant le sexe, se maîtriser devant la nourriture, se maîtriser devant le pouvoir, se maîtriser devant l'argent, se maîtriser. Vaincre les addictions, c'est ça développer les vertus. Développer les vertus, c'est être propre, être décent. Alléluia, ne pas être extravagant, être décent, ne pas s'exposer. Quand ces vertus sont développées en nous, 2 Pierre chapitre 5, verset 9 dit ceci. Si ces vertus sont développées en nous, nous ne serons pas aveugles. Alléluia. Donc, si les vertus sont développées en nous, vous allez voir. Voir quoi? Voir ce que Dieu voit. Voir comme Dieu voit. Voir ce que Dieu a préparé pour vous. Beaucoup d'enfants de Dieu ne savent pas reconnaître ce que Dieu a préparé pour eux. Si vous développez ces vertus en vous, si vous recherchez ces vertus, vous allez facilement remarquer qu'à côté de vous, il y a quelqu'un qui cherche les mêmes choses que vous. Alléluia. Et ça devient facile de reconnaître la personne. Alléluia. Il y a quelqu'un qui me suit. Dernière chose que j'aimerais dire, la sixième chose, c'est que tu peux reconnaître ton futur conjoint sans l'essayer. Tu peux reconnaître ton futur conjoint sans l'essayer. Alléluia. Voilà. Nous le savons parce que Ruth et Boaz ne se sont jamais essayés. L'un et l'autre. Pour savoir s'ils étaient faits l'un pour l'autre, on va d'abord essayer. Non, ils n'avaient pas essayé. Oui. Comment est-ce possible? Comment je peux choisir quelque chose sans avoir essayé? C'est possible parce que ce n'est pas vous qui cherchez. Alléluia. Dieu ne met pas ses enfants comme devant un buffet. Ininyama nguru, ininyama buzi, ininyama ngombe. Pima wasi. Et on a furaya, on a kamata. Non! Ce n'est pas comme ça. Même si c'est ce que le monde enseigne. Il y a quelqu'un, j'ai suivi ça dans un film, et quelqu'un disait, mais comment je peux acheter une voiture sans l'avoir essayé? Et beaucoup d'enfants de Dieu marchent avec cette philosophie. Le problème avec cette philosophie, c'est que la personne que vous allez épouser n'est pas une voiture. Cette personne n'est pas un repas. C'est une personne, c'est la fille d'autrui. C'est le garçon d'autrui. Il appartient au Dieu qui a créé le ciel et la terre. Ce Dieu-là a préparé une destinée pour cette personne. Alléluia. Que toi, tu ne connais pas. Alléluia. Adam, comme je l'ai dit, Dieu a préparé à Ève et l'a amené devant Adam. Si vous lisez l'histoire d'Isaac et Rebecca, c'est la même chose. Isaac a laissé son père envoyer son serviteur, le père d'Isaac qui est l'image de Dieu notre Père, et Eliezer, le serviteur qui est l'image du Saint-Esprit. Isaac a laissé le Saint-Esprit aller au-devant et lui a trouvé l'épouse, Rebecca. Et quand Rebecca est arrivée, la Bible dit que Isaac a vu Rebecca, il a exulté et il a pris Rebecca comme femme. C'est comme ça. Il n'avait pas un menu devant lui. Alléluia. Le problème, est-ce que tu le crois? Si tu le crois, tu ne chercheras pas un homme ou une femme comme le monde le cherche. Si tu le crois, tu resteras tranquille. Et tu laisseras Dieu préparer cette personne pour toi. Mais la grande question, c'est est-ce que tu as confiance en Dieu? C'est ça la grande question. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a une question? J'ai fini. Oui, mon frère, je vais vous lever. Je vais prendre deux ou trois questions. Qui d'autre a une question? Bon, nous n'avons qu'une seule question.
Bonjour.
Bonjour.
Shalom.
Shalom.
Je voudrais d'abord dire merci pour la parole, mais aussi merci pour la qualité de l'enseignement. C'est vraiment important.
Gloire à Dieu.
Et très utile pour nous, le jeune, célibataire particulièrement. Alors, ma question, je ne sais pas si je vais les subdiviser en sous-points. Mais je vais aller droit au but par rapport à la sœur Ruth, qui est notre école aujourd'hui.
Oui.
J'ai aimé la partie de reconnaître ce que Dieu a prévu pour nous.
Oui.
Mais ce que je trouve un problème, c'est l'approche par rapport à cela. Je reviens à notre sœur Ruth. On voit qu'elle fait certaines pratiques comme le fait d'aller se coucher aux pieds
de Boaz,
pour demander l'approbation du rachat. Alors, je ne sais pas comment on peut qualifier ces comportements-là lorsque vous reconnaissez ce que Dieu a placé en vous.
Pourquoi aller s'offrir soi-même?
Voilà. Et ce qui est encore bizarre, c'est que le chapitre 3 dit que Boaz va même dire à Ruth que personne ne sache qu'elle est entrée.
Oui.
En d'autres termes, Ruth est entrée illégalement.
Oui.
Donc.
Oui, c'est une très bonne question. Oui.
Je sais ce que Dieu veut pour moi.
Oui.
Mais comment je m'y prends pour que la chose que Dieu veut pour moi m'appartienne correctement dans le voie de Dieu? C'est là où la sœur Ruth a un problème avec moi. Je ne sais pas si vous pouvez m'aider.
Merci beaucoup pour cette question. Elle est pertinente. Alors, dans le même texte que vous avez lu, si vous lisez un peu avant, je réponds directement. Vous allez voir que Ruth n'est pas arrivée au pied de Boaz par sa propre initiative. N'est-ce pas? Mon frère, tu as bien lu cette partie. Ruth n'est pas arrivée au pied de Boaz de sa propre initiative. Elle n'avait pas Boaz comme ambition. Oui, oui. Elle n'avait jamais choisi Boaz. Comment elle s'est retrouvée au pied de Boaz? C'est par obéissance à sa belle-mère. Alléluia. Donc, elle s'est retrouvée là, non pas par sa propre initiative, mais par soumission et par obéissance à sa belle-mère. Et qu'est-ce que sa belle-mère était en train de faire? Ce que sa belle-mère était en train de faire, c'est de mettre Ruth dans la position où elle pouvait hériter ce que Dieu lui-même avait déjà déclaré. OK? Parce que dans la coutume ou dans la tradition que Dieu avait approuvée, un homme qui meurt sans un homme marié qui meurt sans avoir eu d'enfant. OK? Quand un homme meurt sans avoir eu d'enfant, eh bien, cette femme, la veuve, a le droit d'être épousée par le frère de cette veuve. Et l'objectif de ce mariage, c'est quoi? C'est de donner une progéniture au défunt. Vous comprenez? Donc, ce n'était pas une histoire de romance. Il faut faire attention. Ce n'était pas une histoire de romance. Ruth était en train d'obéir à une directive. En fait, Ruth était en train d'obéir à une directive qui était dans la voie ou dans la loi de ce que Dieu avait déjà instruit. OK? Ça, c'est la première chose que j'aimerais dire. Elle est arrivée là où elle est arrivée. Et pourquoi Boaz lui demande de sortir discrètement? Parce que Boaz ne veut pas. Boaz lui-même, il s'était engagé. Il a dit, je n'exercerai pas mon droit de rachat. Ça veut dire, je ne vais pas t'épouser. Alors que dans ma famille, il y a quelqu'un d'autre qui a préséance. Vous voyez? Ce n'est pas moi qui ai préséance. Je vais d'abord laisser à la personne qui a préséance de t'épouser, de décider si oui ou non il veut exercer ce droit. Si cette personne-là renonce à son droit, alors je t'épouserai. Et donc, Ruth s'est retrouvée au pied de Boaz. Elle a passé la nuit. Boaz ne l'a pas touchée. Oui, oui. C'est pourquoi nous parlons de chasteté et de maîtrise de soi. Et le matin, Boaz demande à Ruth de partir discrètement, c'est très probablement parce que Boaz veut protéger la réputation de Ruth. Vous voyez? Voilà. C'est la réponse que je peux donner à votre question. Oui, maman Annette, ma sœur Annette.
Merci. Alors, vous avez dit que Dieu se charge de nous trouver un partenaire.
Oui.
Alors, qu'en est-il de ces personnes qui dont l'âge avance et se disent « Peut-être je suis passée à côté du partenaire sans le connaître. Est-ce que Dieu le réserve pour nous le faire rencontrer encore plus tard ou il lui trouve quelqu'un et nous trouve aussi quelqu'un d'autre ?»
Est-ce que je peux aider Dieu ? C'est ça la question. Si le temps est déjà dépassé, est-ce que je peux aider Dieu ? C'est ça la question, en d'autres termes. Aider Dieu est un acte d'incrédulité. Oui, c'est ce que je peux dire. Je ne dis pas, et ça arrive à tout le monde. Tout le monde qui a marché avec le Seigneur a connu des moments de faiblesse dans sa foi, des moments de doute, des moments d'incertitude, et qui les ont exposés à des choses que Dieu réprouve. Abraham lui-même, à un moment donné, il avait douté de la promesse de recevoir une progéniture à partir de son épouse. La Bible dit qu'Abraham avait ri. Plus tard, Sarah aussi rira. N'est-ce pas? Même les héros dans la foi sont passés par des moments de doute lorsque la situation devient incertaine, lorsque c'est que Dieu... Quand, et vous savez, avec Dieu, Dieu peut te promettre un jardin alors que vous êtes dans un désert. C'est ça Dieu. Oui. Dieu peut te demander marche alors que tu es dans la mer. Au lieu de te dire nage, il te dit marche. Alors que tu es dans la mer. C'est ça Dieu. C'est le Dieu de l'impossible. C'est pourquoi nous l'adorons. Comment tu vas adorer quelqu'un qui fait les choses comme toi? Ça n'a pas de sens. Alléluia. C'est pourquoi nous l'aimons. C'est pourquoi nous le servons. Parce que lui fait des choses qui sont humainement impossibles. Si ce n'était pas ça, même moi, je n'allais pas l'adorer. Alléluia. Moi, je me suis marié à 30 ans. Il arrive que lorsque je rentre dans la ville natale de mes parents, on me présente des neveux. On me présente des neveux, des nièces qui ont des enfants plus grands que mes enfants. Et je suis sûr que pour eux, moi, je me suis marié trop vieux, trop vieux. Ils ne comprennent pas pourquoi mon épouse avait 29 ans quand nous sommes mariés. Et je suis sûr que beaucoup de sœurs ici, si Dieu vous dit que c'est à 29 ans que vous allez vous marier, vous allez dire quoi, Jean à la S, n'est-ce pas? Voilà. Oui. Oui. Mais n'aidez pas Dieu. Dieu n'a pas besoin de votre... Dieu n'a pas d'assistant. Alléluia. Il est autosuffisant. Ce qu'il dit lui-même, il le fera. Les anges ne sont même pas là pour aider Dieu. Vous devez le savoir. Il n'y a rien qu'un ange fait que Dieu ne veut pas faire lui-même. Alléluia. Dieu n'a pas besoin de notre assistance. Celui que nous adorons, c'est celui qui a dit un mot et la terre est apparue, le soleil et tout ça. Moi, j'aimerais vous encourager à croire en Dieu. La raison pour laquelle nous ne vivons pas, nous n'expérimentons pas Dieu dans notre vie, ce n'est pas parce que Dieu n'est pas puissant. C'est parce que nous n'avons pas la foi. Nous confessons des choses qu'au fond de nous, nous ne croyons pas. Alléluia. Mais le jour où vous allez commencer à dire, Seigneur, je n'ai, si tu as un plan B, tu ne vas pas voir la gloire de Dieu. Tu verras la gloire de Dieu lorsque tu n'as que Dieu. Tu verras sa gloire. Si tu n'as que lui, tu verras sa gloire. Mais si tu as un plan B, tu vivras le plan des hommes. Alléluia. Et Dieu ne va pas t'empêcher. Oui, mon frère. On va terminer par lui.
Merci beaucoup. Pour le message, c'est un message qui nous édifie, et ça nous encourage aussi. J'aimerais savoir, justement, Dieu est autosuffisant et il nous appelle à nous faire confiance. Mais je suis en train de penser au texte qui me dit « Demandez, cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Avec foi, j'y vais. Bon, » Est-ce que c'est encourageant que j'ai frappé auprès d'une sœur? Bon. Voilà.
Vous voyez, c'est ça le problème. Frappez où?
Voilà, c'est ça ma question.
Frappez où? Voilà. Frappez où? Lisez bien ce passage. Frappez où? Vous n'allez pas frapper à n'importe quelle porte. C'est ça. Il faut faire attention lorsque vous lisez les Écritures. Ça va? Oui. Mon frère, si vous voulez, je suis en train de dire ceci. Je ne suis pas en train de dire ici que en dehors des voies de Dieu, vous ne pouvez pas vous marier. Non. Non. Les gens se marient dans le monde entier. Je suis en train de vous présenter, et je l'ai dit au début de cet enseignement, je ne suis pas venu ici pour prêcher les autres philosophies. Je suis venu prêcher la parole de Dieu. Et mon objectif lorsque je prêche, c'est que je suscite quelqu'un à s'inscrire sur la voie de Dieu. C'est ça mon objectif. Donc, bien aimé dans le Seigneur, même Dieu lui-même, lorsqu'il s'adresse à son peuple, il dit, j'ai mis devant vous le bien et le mal. Alléluia. Choisissez. Vous avez la liberté de choisir, mais vous devez savoir ceci. Vous ne pouvez pas avoir la récompense de ceux qui ont choisi de croire en Dieu lorsque vous décidez d'aller de vous débrouiller seul. Si vous vous débrouillez seul, vous allez vous marier, vous aurez le mariage que vous aurez. Mais vous n'aurez pas l'héritage de ceux qui s'attendent à Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, ceux qui s'attendent à Dieu, ceux qui reçoivent les promesses de Dieu, ce sont ceux qui font confiance en Dieu. Alléluia. Et c'est ce que moi je suis venu vous encourager à faire. Faites confiance au Seigneur et Dieu ne vous décevra pas. Il n'y a personne que Dieu a déjà déçu. Alléluia. Il n'y en a pas. Et Dieu n'a la dette de personne. Il paye toujours ses dettes, s'il en a. Alléluia. Dieu honore sa parole. Faites confiance au Seigneur. Laissez Dieu choisir pour vous. Vous allez vous reposer. Jésus a dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés. Et je vous donnerai le repos. Si vous vouliez aller seul, allez-y. Mais vous allez vous fatiguer. Que le Seigneur bénisse sa parole.